Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren.
Comme une aventure, mot jeune, synonyme de mobilité et d'imprévu, nos contemporains l'envisagent encore comme un dépérissement lent, inutile, comme la fin des plaisirs. Et lorsque rien ne se profile derrière l'horizon, l'horizon de l'au-delà, on mesure l'angoisse que suscite le vieillissement et aussi la volonté d'en abréger la durée. Suivez mon regard. Et c'est en cela que notre discussion peut s'inscrire dans le débat. Cette fameuse convention citoyenne sur la fin de vie dont on ne sait pas sur quoi elle va aboutir, un changement du cadre législatif, sans doute au printemps prochain. Mais si avancer dans l'âge est un voyage, comme nous le dit Marie de Henzel, voilà la suggestion qu'elle nous propose. Eh bien, si vieillir est un voyage, ça change peut-être aussi notre regard sur cette période de la vie. Et donc, ça change le débat aussi sur la fin de vie. Voilà, il faut se préparer à faire nos bagages, à nous préparer donc à l'automne et à l'hiver de la vie, qui n'est pas si terrible que ça. Bonjour Marie de Henzel.
Bonjour.
Donc ça veut dire qu'on prend le problème à la source, en fait. On ne prend pas à la fin, celui de la fin de vie, on le prend au début, qui est le moment où on commence à vieillir. Mais à partir de quand commence-t-on à vieillir ?
Évidemment, on commence à vieillir à la naissance, hein, mais disons qu'on parle de vieillissement à partir de la retraite, en fait. On a une carte senior quand on a 60 ans.
Ouais, là, donc, c'est un cap psychologique.
Voilà, il y a un cap autour de 60 ans. Mais bien sûr, on vieillit tout au long de sa vie. Mais c'est vrai que lorsqu'on arrive à la retraite, il y a cette mauvaise image, cette image désastreuse du vieillir qui fait qu'il y a une vraie peur de vieillir en France. Et là,
qu'ailleurs ?
Non. En tout cas, je me réfère à un baromètre sur France 2025 sur la peur de vieillir. Je pense qu'elle est partout certainement en Europe, en tout cas dans les pays occidentaux, parce que nous sommes dans des pays jeunistes.
Peut-être moins au Japon où vous êtes allé. Okinawa, par exemple, ou dans des cultures orientales.
Le Japon est un pays très vieillissant, où il y a une densité de personnes âgées très importante, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup réfléchi à ce qui peut donner du sens à cet âge, justement, et ce qui peut permettre aussi de rester, je dirais, en bonne santé, même quand on est centenaire.
Il y a un âge quand même que vous donnez, d'ailleurs, dès le début de votre réflexion. Vous dites, je reprends les statistiques, parce que c'est très très clair. Actuellement, près de 80 ans donc pour les hommes et près de 87 ans pour les femmes, ça, d'accord, c'est l'espérance de vie. Mais ce qui est important, c'est l'espérance de vie sans incapacité qui s'élève à 63,4 ans pour les hommes, 64,5 ans pour les femmes, ce qui est quand même beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que ça arrive quand même assez vite. Au-delà de 60 ans, on considère donc qu'on arrive dans la phase où il y a un risque d'incapacité. C'est ça qui fait peur.
Il y a un risque, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme d'aventure, parce que quand on se lance dans une aventure, il y a toujours des risques. On ne sait pas ce qui va arriver, mais il n'y a pas de fatalité non plus. C'est ça. Vieillir est une inconnue. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue d'une femme de 95 ans disant « Vieillir est une inconnue, tout se délite, mais en même temps s'ouvre un espace de grâce. » Et c'est ce paradoxe du vieillir que dont j'aime parler depuis longtemps et que je donne comme source de réflexion à tous ceux qui suivent mes séminaires, c'est que, bien sûr, il faut accepter le vieillissement du corps avec les risques de fragilisation, bien sûr, mais en même temps, il y a une ouverture au nouveau, il y a des choses nouvelles, un regard différent sur les autres, sur soi-même. On découvre des choses, on apprend des choses. Et c'est tout cela que notre société ne voit pas. C'est pour ça que je trouve extrêmement important de donner la parole aux personnes âgées, de les entendre nous parler de ce qu'elles vivent de spécifique. C'est-à-dire, j'aime beaucoup ces trois mots que je reprends tout le long de mon livre, ce qu'elles vivent d'heureux, de fécond, d'intéressant. Vous voyez, ça, on n'a pas ce regard. Notre société ne voit pas cela.
Alors, elle ne le voit pas parce qu'elle ne veut pas le voir. Les médias ne le voient pas parce que ça n'est pas vendeur. Voilà. Quelles sont les... Il y a des raisons particulières, il y a des a priori à changer. Parce que vous essayez de déminer ces a priori pour changer le regard sur le vieillissement.
Oui, parce que nous sommes dans une société âgiste. Enfin, c'est le terme qu'on emploie maintenant sur l'exclusion, finalement, des vieux, de la... ce refus de voir cet âge de la vie, de le voir dans sa... encore une fois dans sa spécificité. Hein, je pense que c'est cela que moi j'ai découvert depuis 15 ans, c'est que les gens vivent des choses qui sont intéressantes.
Et par exemple, qu'est-ce que l'on vit, Marie de Henzel, quand on passe les 60 ans, qu'on est à la retraite? Ce mot déjà de « à la retraite », bon, est
moi,
compliqué.
Oui, j'aime mieux le mot espagnol, la jubilación.
Ah oui, ça c'est plus sympa.
C'est comme ça qu'ils appellent la retraite.
Ouais. Hein. Ouais,
voilà. Et voilà. Justement, je crois que, je le dis dans mon livre aussi, on explore en fait progressivement les contre-valeurs de la société, c'est-à-dire la lenteur dans un monde qui va très vite, la disponibilité dans un monde qui est suroccupé, la bienveillance aussi, dans un monde très dur, hein, l'être dans un monde du fer. Enfin, c'est tout cela que progressivement on explore. Bien sûr, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain à 60 ans. Bon, il faut pas oublier que vieillir, ça couvre trois âges, hein, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge. Et que c'est sûr qu'à 100 ans, on ne vit pas la même chose qu'à 80 ni qu'à 60.
La société a largement délégué à des structures le fait de vivre cet âge. Et ce qui provoque aussi une forme d'isolement. Et peut-être que la chose la pire que traversent les personnes d'un certain âge, c'est la solitude. Le fait d'être coupé déjà de la famille qui a délégué à des institutions comme les EHPAD le soin de s'occuper des leurs. Ça, c'est quand même une révolution. Est-ce qu'il faut changer ce modèle-là, selon vous, Marie de Henzel? Est-ce qu'il a vécu, en particulier avec le Covid, une forme d'aboutissement tragique?
Absolument. Je pense qu'il y a, à ma génération, en tout cas, un refus de ce type d'habitat, de structure que sont les EHPAD. Et actuellement, il y a beaucoup de nouvelles, je dirais, de nouvelles formules qui naissent, dont une que je défends particulièrement, qui est le béguinage solidaire. Parce que justement, ce que j'ai observé, c'est que... les personnes qui ont autour de entre 60 et 70 ans ne croient plus tellement à la solidarité intergénérationnelle. C'est assez surprenant parce que les enfants ont leur vie, ils ont des vies souvent difficiles, ils sont souvent éloignés géographiquement. Et alors, il se met en place l'idée d'une solidarité intra-générationnelle, c'est-à-dire entre personnes de la même génération. Comme au Japon, par exemple, qui a ce concept des mo'ai, des petites communautés de centenaires, hein, qui ont un contrat entre elles, ces personnes, de non-abandon, c'est-à-dire un contrat moral, mais aussi un contrat financier. Et ça, je trouve que cette idée est extrêmement intéressante. C'est pour ça que le béguinage solidaire, entre autres, c'est vraiment une idée extrêmement intéressante.
Donc ça veut dire que la personne d'un certain âge peut choisir avec qui elle vit, voilà. Et finalement refaire sa vie, même statutairement, avec quelqu'un ou d'autres personnes.
Avec d'autres personnes, c'est-à-dire c'est vieillir chez soi et ensemble. Et on a besoin d'avoir son chez-soi. Ce sont des domiciles d'ailleurs, hein. Et en même temps ensemble, c'est-à-dire que la convivialité, le besoin d'échange qui justement permet de ne pas être isolé, c'est extrêmement important. Alors l'isolement, c'est un poison. La solitude, par contre, je travaille dessus sur ce thème, c'est quelque chose qui est ontologique, hein, qui est propre à l'humain. Et en vieillissant, on est confronté à cette solitude. En fait, nous sommes seuls devant les questions de la vie, de la mort, du sens de la vie. Et il y a à apprivoiser cette solitude aussi. Et là, c'est vraiment quelque chose aussi d'intéressant. Il y a des gens qui vivent bien leur solitude, qui en ont besoin. Alors que nous sommes dans une société dans laquelle on voudrait absolument distraire, occuper les vieux. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Regardez dans les EHPAD, quand on allume la télévision, sans même demander à la personne si elle est d'accord, pour qu'elle, justement, pour qu'elle soit occupée. Alors qu'en fait, elle n'en a pas besoin. Elle est bien avec ses pensées. Elle a besoin de se retrouver elle-même. On a besoin de silence. On a besoin pour s'approfondir, pour essayer d'aller chercher au fond de soi ce qui est la tâche, peut-être cette dernière partie de la vie, qui est de trouver le fil rouge de sa vie, ce qui a donné du sens. Tout cela nécessite du silence et de la solitude.
Mais Marie de Henzel, on vieillit comme on a vécu. Des personnes qui n'auront pas cherché le sens de leur vie pendant leur vie active, si je puis dire, y a-t-il une raison pour qu'elles trouvent ce sens au moment où elles ne le sont plus ?
Oui, moi je pense que l'âge le permet. Je pense qu'il y a une période dans laquelle peut-être on est dans l'action, on est dans la construction, peut-être qu'on ne se pose pas toutes ces questions, mais on se les pose en vieillissant. Et je pense que justement, quand les personnes parlent ensemble, elles s'aident les unes les autres. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée de solidarité entre personnes de la même génération. Parce que tout le monde, évidemment, ne vieillit pas de la même manière. Et les personnes qui, peut-être, ont plus réfléchi peuvent aider les autres aussi. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette idée de parler ensemble, de ces groupes de parole que j'avais animés pour une résidence-service Domitis, où les personnes de 80 à 100 ans se réunissent régulièrement pour parler de ce qu'elles vivent.
Et ça, c'est un acquis en fait de l'âge,
oui,
dont on ne parle pas assez. Parce qu'en fait, il y a un problème de communication sur cette période de la vie.
Absolument. Les personnes ont l'impression qu'on ne s'intéresse pas à elles, qu'elles sont mises sur le bas-côté, que au fond... Et c'est vrai, ça, c'est la vraie souffrance d'une forme d'isolement, justement, qui est de ne pas pouvoir communiquer sur ce que l'on vit et de perdre ses amis. Hein, on a du mal à s'en faire d'autres. Mais tout cela passe par la parole, en fait, la parole partagée.
Mais ça, Marie de Henzel, on a du mal à changer, en tout cas, le regard des médias. Mais les médias, on ne peut pas les accuser de tout. C'est simplement que le tropisme même des médias est sur le jeunisme. Ça, c'est une certitude.
Oui, oui, oui. Et on est dans une société jeuniste ou agiste. Enfin bon, maintenant, on emploie beaucoup le terme de agiste. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas au fait aux vieux. Ça, je pense que c'est vrai. Et que j'espère que mon livre va attirer l'attention sur le fait que, eh bien, c'est vrai que... c'est sur ce paradoxe, parce que mon livre n'est pas un livre qui dit que tout va bien, que tout est facile en vieillissant. Bien sûr que non.
Non, mais ça redonne l'espoir quand même. Et puis en plus, vous convoquez des personnalités dont on ne suppose pas qu'elles aient nécessairement pris position là-dessus ou fait partager des sentiments là-dessus. Je pense à Woody Allen, par exemple. Je ne me regarde plus jamais, même si les films de Woody Allen nous amènent à réfléchir à notre condition. Je ne me regarde plus jamais dans le miroir, car c'est désespérant. Je regarde à l'intérieur de moi, car à l'intérieur, je suis jeune.
Voilà. Les personnes le disent, ce qu'apporte la vieillesse, c'est la jeunesse du cœur. Et ça aussi, je l'ai découvert en écoutant des personnes de plus de 80 ans.
Et puis il y a des vieux à 20 ans et puis des jeunes à 80 ans.
Absolument.
Ça, c'est... Oui. On en fait aussi l'expérience. Je reviens juste aux médias un instant, Marie de Henzel. Les médias ont signé, ou en tout cas pas mal de rédactions, ont signé une charte pour être à la hauteur de l'urgence climatique. C'était début septembre, me semble-t-il. Est-ce qu'on pourrait imaginer, médiatiquement parlant, que les médias souscrivent à une sorte de charte pour être à la hauteur de l'urgence du grand âge, par exemple, et de se dire, on va avoir une couverture positive du grand âge, comme on a une couverture de l'écologie qui soit pédagogique, le plus pédagogique possible.
Quelle bonne idée, quelle bonne idée.
C'est à vous de la soumettre, c'est pas à moi. Vous avez la renommée pour le faire.
Bah écoutez,
pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas.
Non, parce qu'il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas de politique médiatique, il n'y a rien sur le sujet maintenant.
Mais c'est peut-être l'occasion justement aussi d'évoquer ce mouvement citoyen qui a à peine un an, que le CNAV, le Conseil National Autoproclamé de la Vieillesse, qui n'est pas une association pour le moment, mais un mouvement citoyen, qui justement demande au pouvoir public de ne prendre aucune décision sans consulter les personnes âgées elles-mêmes, hein, les vieux et les vieilles, parce qu'on assume le mot, Hein, ce n'est pas un vilain mot, et moi-même, je l'assume. Je dis que je suis une jeune vieille. Je suis dans ma. Je dis dans le livre que je suis une jeune vieille, une décalée féconde. J'ai repris ce terme de décalée parce qu'en fait, c'est vrai que oser assumer le mot de vieux, on est décalé hein, aujourd'hui. Mais c'est fécond parce que si on ne l'assume pas, comment peut-on dire au fond que cet âge de la vie est intéressant ?
Seigneur, c'est démago.
Oui, moi je trouve que c'est un déni de réalité. On est dans le déni.
C'est publicitaire en fait.
Oui, absolument. Donc je pense que c'est intéressant ce qui est en train de naître. Et il y aura d'ailleurs, je pense aussi... Je dirais ce mouvement va s'amplifier parce que justement il faut que ce regard sur la vieillesse change. Il faut aussi permettre aux personnes de montrer ce que chacun vit dans sa diversité aussi. Parce que tout le monde ne vit pas la même chose, bien sûr. Hein.
Exactement, ça dépend évidemment de votre retraite aussi, de vos revenus.
En tout cas, l'enjeu, c'est la dignité du vieillir. Vous voyez, c'est ça que je trouve très important. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que l'horizon, quand on vieillit, l'horizon est un horizon indigne.
Alors justement, Marie Denzel, il y a cette convention citoyenne sur la fin de vie. Est-ce que ce n'est pas un peu tard pour faire émerger cette conscience du vieillissement en tant qu'aventure telle que vous le présentez, alors que tout le débat porte maintenant sur la fin de vie, sur le fait d'abréger justement cette période de la vie, y compris le plus tôt possible, avant même que des signes cliniques de défaillance irrémédiable se soient manifestés. Donc ça, comment déporter le débat sur la période d'avant ?
Moi, je trouve extrêmement grave que l'on ait abandonné la loi Grand Âge, qui était quand même une loi qui avait été promise par 3 présidents de la République, qui était une loi qui envisageait, je dirais, de permettre ce vieillir digne à tous les niveaux, l'habitat, la prévention de la perte d'autonomie, cet abandon est un signal qui est très inquiétant. Parce que moi je crains qu'il n'y ait un vieillir à 2 vitesses, disons que des personnes qui ont une certaine culture ou qui ont des relations, qui ont de l'argent, puissent effectivement avoir un vieillir qui digne, et puis tous les autres qui pourraient, justement parce qu'on n'a pas mis en place tout ce qui permettrait justement un habitat humain, une prévention aussi de la perte d'autonomie, ces personnes peuvent se retrouver avec un sentiment d'indignité et elles n'auront à ce moment-là plus que, je dirais, qu'une porte de sortie, c'est de demander la mort. C'est-à-dire que parce qu'on n'aura pas su assurer le vieillir digne, on va proposer la mort digne, c'est-à-dire le suicide assisté ou l'euthanasie.
Le secret, c'est dans la capacité à maintenir de relations. Je pense à cela parce que dans les médias, par exemple, vous avez des journalistes très âgés qui demeurent extrêmement actifs. Hein. Citons-en un, Jean-Pierre Elkabbach, par exemple. Jean-Pierre Elkabbach doit avoir, je ne sais pas, au moins 85 ans. Ça fait 50 ans qu'il occupe l'espace médiatique.
Oui, Alain Duhamel aussi.
Alain Duhamel, par exemple. Donc, ce sont des gens qui continuent une carrière alors que beaucoup de leurs contemporains sont en EHPAD déjà depuis un certain temps.
Alors, c'est une des clés aussi, c'est de rester actif. Que même, par exemple, là, ils ont de la chance aussi de continuer d'être dans des métiers dans lesquels on peut continuer.
Voilà, c'est un point.
Il y a des métiers dans lesquels on ne peut pas continuer longtemps. Mais vous savez que le bénévolat repose en grande partie sur des personnes qui ont plus de 60 ans. Et que, donc, il y a... Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les personnes qui vieillissantes sont des personnes qui sont beaucoup dans le service à l'intérieur d'une famille, dans le... Il y a vraiment une activité qui est réelle Et puis, vous avez toutes les personnes qui même découvrent, je dirais, une création possible, des personnes qui se mettent à écrire, des personnes qui se mettent à peindre.
On peut toujours apprendre.
Des personnes qui, voilà, elles sont dans l'apprentissage d'une langue aussi, par exemple. Je suis frappée par ce désir d'apprendre qui se trouve que j'ai rencontré chez des personnes âgées.
On trouve aussi la possibilité de maintenir son corps en l'état par le yoga, par exemple, hein. Notamment ce que font par exemple les orientaux aussi, de faire des mouvements lents dans la rue. On en voit parfois à boulevard Dierkinet, près de la radio, qui le matin à 6h...
De toute façon, il y a plusieurs clés du bien vieillir. Oui. Hein. De prendre soin de son corps, de son esprit, c'en est une. C'est certain que pour rester actif, il faut continuer à bouger. Ça, ce sont les préconisations qu'on connaît depuis longtemps. Bouger, bien s'alimenter, rester en lien, ça reste quand même les trois piliers. Mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi profiter de cet âge de la vie pour ce que j'appelle voyager vers son intériorité, c'est-à-dire aller justement trouver... aller à la rencontre de soi-même, revisiter sa maison, comme disait une personne qui disait, moi, c'est l'âge que j'ai, eh bien, je relis ma vie, je relis mes souvenirs, j'essaye de me mettre en paix avec moi-même, en paix avec les autres, en paix avec mon existence.
Ce sont les trois R, faut quitter la vie sans rancune, sans remords, sans regret.
Voilà. Donc il y a, c'est un vrai travail.
Quand vous dites
travail de vieillir bien.
Marie de Henzel, quand vous parlez justement des forces de l'esprit, on pense à François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, François Mitterrand ?
Quand vous dites la situation, c'est
par rapport à la fin de vie, par rapport à tous ces débats qui ne se posaient pas du tout à l'époque, en tout cas dans l'opinion la plus vaste.
Alors, je l'ai dit dans le livre que j'avais écrit sur mes conversations avec lui, que nous avions échangé sur l'euthanasie, justement. Il m'avait dit, tant que je serai en vie, je ne voterai jamais une loi sur l'euthanasie. Il me dit, parce que nous ne sommes pas dans une société bonne. Nous sommes dans une société dans laquelle on pourrait, si effectivement les médecins avaient le droit de donner la mort délibérément, où on pourrait, il pourrait y avoir des dérives. On pourrait effectivement décider que la vie de certains ne vaut plus.
S'il y a des directives anticipées, on l'a vu récemment, vont contre ça. Le Conseil constitutionnel a dit que les directives n'étaient pas infaillibles.
Alors, ça, c'est encore une autre question, mais c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si ces directives servent à quelque chose, du coup. Mais François Mitterrand avait ce souci, justement, de préserver, en fait, vraiment l'interdit de tuer, me disait-il, et il n'était pas le seul, parce que je sais que Robert Badinter pense la même chose, est quand même quelque chose qui protège. Et moi, je suis, c'est vrai, assez inquiète que l'on puisse toucher à cet interdit fondamental.
Peut-être qu'il y a une parole que l'on attend de personnes donc d'un certain âge qui pourraient dire quelque chose sur cet âge-là.
Peut-être, oui.
Et qu'on n'entend pas tellement dans les médias. Peut-être qu'il y a cette parole.
Écoutez, moi, j'ai cité Robert Badinter parce que je sais très bien ce qu'il pense sur cette question. Il est très âgé aussi et je pense qu'il s'exprime quand même assez régulièrement là-dessus.
Merci Marie de Henzel d'avoir alimenté à votre manière, évidemment, notre questionnement sur le sujet, puisque je précise, on a régulièrement, au cours des séquences, des matinales en particulier, des réflexions sur la fin de la vie ou le avant la fin de la vie, en l'espèce l'aventure de vieillir, signé Marie de Henzel. Et si avancer dans l'âge était un voyage, aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous ce matin et je vous dis à bientôt.
Merci.